RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, on se retrouve comme chaque journée de Top 14 pour notre apéro des poteaux en compagnie ce soir de Romain Asselin et Arthur Jean. Salut messieurs.
Salut tout le monde.
Alors certes, l'équipe de France n'a pas encore officiellement lancé son tournoi à destination, mais ce week-end, c'est déjà le premier doublon. Faux doublon, comme on l'appelle. Certains clubs vont donc devoir jouer sans leurs internationaux. Et c'est l'occasion pour d'autres de faire le plein de points. C'est le cas du Stade français qui se déplacera sur la pelouse de Montpellier et de La Rochelle qui essaiera d'en profiter pour se relancer avec la réception de Lyon. On parle là des deux clubs auxquels on va s'intéresser aujourd'hui dans l'apéro des poteaux. Mais le club à la Caravelle aura évidemment la gorge serrée à l'idée de jouer sans son pilier droit emblématique, Winnie Antonio, victime d'un accident cardiaque cette semaine, on le rappelle. On va évidemment y revenir dans cet apéro des poteaux. Avant toute autre chose, voici les horaires des matchs à suivre ce week-end pour cette 16e journée de championnat, à commencer par MHR Stade Français en ouverture à 14h30 ce samedi, suivi du multiplex à 16h35 avec Racing Perpignan, La Rochelle Lyon, Castres Clermont, Montauban UBB à 21h, Toulouse reçoit Bayonne et dimanche 21h05, Pau accueille Toulon. Le classement, lui, a été un peu chamboulé la semaine dernière. Toulouse reste malgré tout leader, évidemment, avec 53 points suivis par Pau avec 47 points. Le Stade français ferme la marche de ce podium avec 43 points à égalité avec Toulon, 4e. Clermont est 5e avec 40 points à égalité avec Bordeaux, 6e. Voilà pour le top 6. Derrière, on retrouve Montpellier, Castres, La Rochelle, le Racing, Bayonne qui est 11e. Le Loup est lui toujours 12e avec 28 points. L'USAP a pris un petit peu de marge face à son concurrent Montalbanais et se classe donc 13e avec 14 points. Montauban ferme donc ce classement avec 7 points. Voilà. Romain, je me tourne vers toi. On va commencer ce podcast en parlant de La Rochelle qui a vécu une semaine compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, La Rochelle et pas seulement, hein, puisqu'on s'est rendu compte tout au long de la semaine avec cet accident cardiaque de Winnie Antonio, son hospitalisation et l'arrêt contraint et forcé de sa carrière, que ça a dépassé largement les frontières de La Rochelle. Ça a touché la France en plein cœur, la France du rugby, le rugby européen aussi, rugby international. Enfin, je veux dire, c'est assez
c'est
incroyable.
On a vu des hommages de plein de clubs et de plein d'équipes.
Ouais, c'est fou.
Et
sur je t'avoue que j'en ai les frissons à en parler parce que depuis 48 heures, voilà, on ne parle que de Winnie à La Rochelle, mais pas que, mais évidemment à La Rochelle parce que c'est chez lui, c'est son fief. Alors, déjà, les dernières nouvelles, elles sont rassurante comme elle l'était, hein, d'ailleurs mercredi dès la mi-journée, mais voilà, Winnie va bien, il reprend petit à petit ses esprits, il est conscient, il n'a jamais fait de malaise, il a même retrouvé le sourire, il était même de bonne humeur, nous a dit Dylan Leeds tout à l'heure lors de la conférence de presse à la veille de la réception du Loup qui a été consacrée quasiment exclusivement à Winnie Antonio. Je veux dire, c'était assez incroyable avec encore des hommages. Ouais, c'est une semaine, non c'est pas une semaine, mais 48 heures assez dingue, j'ai l'impression que ça fait une semaine que ça dur en fait, vu que c'est l'actualité du moment, et ouais, c'est particulier. Tu sens que c'est un personnage qui a marqué les esprits dans son club, mais d'une manière je pensais pas que c'était aussi profond que ça. Quand je dis dans son club,
arrivé
et dans
en
sa
2011
ville.
À La Rochelle,
ouais, il est arrivé
avec Patrice Collèze,
un parcours exceptionnel de Nouvelle-Zélande. Patrice, qu'il avait croisé lors d'un tournoi de rugby à 10 à Hong Kong, les deux s'étaient accrochés dans un ruck. Enfin, je veux dire, l'histoire, on va pas la refaire, je pense que tout le monde la connaît, mais ça part de là. Et Winnie est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds en France. Il savait même pas où était La Rochelle sur la carte de France. Il a eu des débuts un peu compliqués, un peu viril comme bonhomme, pas mal de cartons jaunes, cartons rouges, et puis petit à petit, il a fait grandir ce club. Il a grandi lui aussi jusqu'à aller en équipe de France en 2014 et d'avoir aujourd'hui un statut incommensurable, même si maintenant sa carrière de joueur est terminée. Mais waouh, quelle carrière! Et je pense qu'on s'en rend compte aujourd'hui.
Voyait que sa carrière était plus proche de la fin que du début, forcément.
Il devait arrêter en 2027,
voilà,
après
il devait
la
arrêter,
Coupe du Monde.
Exactement. Normalement, en équipe de France, il aurait dû arrêter juste après la Coupe du Monde 2023. Il a finalement été rattrapé, notamment par William Servat, qui lui a dit « Reste avec nous, s'il te plaît ».
Je crois qu'il avait envie.
Il avait accepté, oui, je pense, sans trop de regrets, en tout cas. Et donc, c'est vrai que c'est une retraite prématurée pour Winnie Antonio, même si, voilà, effectivement, il était plus proche de la fin que du début en tant que joueur.
Je vois, si c'est sur un point en fait. Je pense qu'on se rend compte tous, en tout cas à La Rochelle, plus les heures passent, qu'on est passé tout près d'une catastrophe.
Bien
Et quand
sûr.
je parle d'une catastrophe, c'est un drame qui aurait pu se dérouler sous les yeux des caméras dimanche dernier à Clermont. Pour le rappel des faits, Winnie Antonio, qu'on a vu toucher au sternum avec un gros bandage, a déclaré forfait de dernière minute. Et je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau au staff médical de La Rochelle, qui a su lui dire non, il faut pas y aller. Parce que je pense qu'il y serait allé, on aurait vécu un drame. C'est ce que tout le monde est en train de dire. Après les premiers éléments médicaux, on va pas du tout révéler quoi que ce soit du secret médical. Hein. C'est l'intimité de Winnie Antonio. Mais voilà, des informations qu'on a, ça aurait pu très mal se passer. Et heureusement qu'il n'a pas joué. Et Ronan O'Gara, en conférence de presse tout à l'heure, extrêmement ému, à un point que je l'avais jamais vu
Ouais.
aussi ému, disait, vous imaginez si j'avais fait jouer Winnie à Clermont? Voilà, je
Oui,
pense que
à la
ça voulait tout
responsabilité de
dire.
l'entraîneur, ça va
Ouais,
être.
ouais, ouais,
Après,
ouais.
si on ne peut pas
Donc,
savoir,
pff,
mais bon,
je pense qu'on peut
heureusement,
souffler maintenant, ça y
voilà,
est. Ouais.
on est resté. Voilà, il a été déclaré forfait pour ce match et on va pas dire que tout va bien, mais en tout cas, voilà, Winnie Antonio
Non, mais
est prise en
heureusement
charge
parce que.
et est entourée médicalement, en tout cas.
Ouais, ça faisait au moins une grosse semaine, voire une dizaine de jours qu'il avait mal au sternum. Donc je dis, on n'est pas en train de dire aujourd'hui, parce que voilà, c'est pas avéré que tout ça est lié forcément, parce que d'ailleurs les examens médicaux sur le sternum n'ont rien donné de prime abord, et c'est ensuite des examens au niveau de la région cardiaque qui ont permis de déceler une artère bouchée. Mais tout ça pour dire que ça faisait quand même de nombreux jours qu'il alertait sur le fait que ça allait pas bien et que voilà, le staff médical a eu le nez creux de dire hop là, stop, on arrête tout de suite, quoi.
Tu parlais de l'émotion de son coach Ronan O'Gara. On peut l'écouter en conférence de presse cet après-midi.
C'est l'homme qui j'adore. Il va passer dans le staff, j'espère. Un énorme privilège parce que je connais très bien l'homme. Je connais toutes les choses qu'il fait dans l'homme. Je connais toutes les choses et moi, je connais lui juste depuis, whatever, 6-7 ans. C'est pourquoi j'adore ce sport de croiser quelqu'un comme lui. Il n'y a pas beaucoup comme lui dans le monde, ça c'est sûr. Mais les choses qu'il fait avec tous les jeunes, les choses qu'il fait pour intégrer les étrangers, les choses qu'il fait quand on est dans une période dure, les choses qu'il fait quand on pense qu'on est trop fort, c'est quelqu'un exceptionnel. Je dois remercier Louis pour les émotions qu'il m'a données depuis que je suis ici. J'ai pas de mots pour Louis parce que c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel.
Ouais, on le sent touché, Ronan
Il était au bord
O'Gara,
des larmes. Hein.
évidemment. Ouais.
Il était au bord des larmes, Ronan O'Gara. Je vous le disais, je l'ai rarement vu à ce point-là. Et je pense que demain, pendant le match, ça va être aussi compliqué à gérer pour lui émotionnellement. Parce que ça va être très intense. Et pas seulement qu'à La Rochelle, puisqu'on rappelle que la Ligue nationale de rugby a invité ce matin les supporters dans tous les stades à observer. On va pas dire une minute d'applaudissements, mais en tout cas des applaudissements nourris à la troisième minute de tous les matchs. Pourquoi à la troisième? Parce que ça est référence au numéro 3 de Winnie Antonio, son numéro fétiche évidemment. Mais je pense qu'O'Gara et les Rochelais sont rattrapés aussi par l'émotion demain. Je sais que le public de La Rochelle, pour en avoir parlé avec des présidents de clubs de supporters, veut mettre le paquet parce que Winnie regardera le match depuis sa chambre d'hôpital. Donc je pense qu'on aura un joli moment et qu'on va pouvoir savourer parce que maintenant tout va bien, quoi. Voilà.
Et quand on regarde ça d'un œil extérieur, c'est assez fou de se dire qu'en fait c'est un monument de La Rochelle déjà qui arrête de jouer. Je crois qu'il a plus de presque 300 matchs avec La Rochelle. 330.
330.
330 matchs avec La Rochelle, 68 sélections chez les Bleus aussi. En plus de ça, c'était un joueur, je trouve, qui a quand même, je vais pas dire révolutionné son poste, parce qu'il
Oh,
y
tu peux le
avait.
dire. Si, si.
En tout cas, il fait partie de cette nouvelle vague de piliers qui sont très très grands. Il fait 1m96, Winnie Antonio, et on n'en a pas vu beaucoup des comme ça, dans le rugby français d'abord, et même dans le monde entier. C'était aussi une de ses grandes caractéristiques, c'est cette taille, cette puissance. Je farfouille un petit peu dans ces matchs qu'il a disputés, notamment en Pro D2 en 2014, quand La Rochelle monte. À la fin de la saison, il joue numéro 5.
Ouais,
Les caractéristiques qu'on prête à un
on est en
numéro 5,
deuxième ligne.
physique en tout cas, c'est celle de Winnie Antonio. Et c'est là où il a été assez exceptionnel. Tu parlais du fait qu'il était de bonne humeur, Romain, tout à l'heure. C'est en plus de ça un joueur qu'on n'a jamais vu ne pas sourire. Enfin, toi qui fréquentes les travées du stade à La Rochelle, tu
C'est un
nous en diras
blagueur,
autant,
Winnie.
mais c'est
Ah
aussi ça
oui.
qui va nous manquer
C'est ce qui
aussi,
ressort
cette
d'ailleurs
présence.
aussi des hommages, que ce soit de ses coéquipiers à La Rochelle ou même au 15 de France, parce qu'on voilà, on sait, les Bleus sont rassemblés cette semaine ensemble, et donc forcément, on leur a posé la question cette semaine à l'entraînement à Marcoussis, et tout le monde est plutôt unanime pour dire que c'est quelqu'un qui met de
Ouais.
la bonne humeur
C'est
dans
le
le
papa du groupe
vestiaire.
qui
C'est pour
disait
ça
tout ça.
aussi que
Hein.
ça touche autant, évidemment, évidemment tout le monde.
C'est un emblème du vestiaire Rochelet et La Rochelle, il va falloir qu'ils s'en remettent aussi parce qu'ils ont perdu Romain Sazi il y a 2 ans. Il y avait eu le précédent avec Kevin Gourdon aussi, qui était un cadre du vestiaire, qui lui aussi était touché par un souci cardiaque qui l'avait contraint à mettre un terme à sa carrière. Voilà, parmi les Mohicans, il reste plus que Botia, quoi.
Ouais.
Chez les anciens de cette génération qui a permis à ce club-là d'accéder à la gloire quelque part, même si ça a été renouvelé largement. Mais Winnie, ouais, c'est une boussole pour le vestiaire. Il fait partie des meubles et il a une importance capitale. Et juste, je voudrais ajouter un mot aussi, ce qui est assez terrible pour lui. Alors attention, que ce que je dise ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'amalgame, je parle sur le plan purement sportif. C'est terrible de se dire que sa dernière sortie sportive aura été une élimination en Coupe d'Europe. C'était il y a 15 jours face au Harlequins, où en plus, tout le monde lui est tombé dessus. Enfin, tout le monde lui est tombé dessus. En tout cas, c'est vrai que bon, il n'a pas fait un gros match, mais avec le recul, on comprend aussi pourquoi, parce qu'il n'était pas aussi à 100%. Mais,
oui, puis il revient voilà, d'une c'est... longue blessure, on le rappelle. Là, il a fait le début de la saison en tant que coach, il avait intégré le staff. On entend Ronan O'Gara, d'ailleurs, dans le son qu'on a passé juste avant, dire qu'il va intégrer le staff, j'espère. Il était en charge de la mêlée depuis le début de la saison. Et il n'a pas fait beaucoup de matchs avec La Rochelle cette année,
Romain. Il en a fait six. Et c'est vrai que celui-là, en plus, c'était en prime sur France 2. Enfin, je veux dire, même les non-initiés ont regardé et ont vu un Antonio en souffrance. Et voilà, je trouve ça dommage qu'il ait cette sortie-là.
On ne choisit pas sa sortie.
J'espère qu'il aura, évidemment. Mais,
on n'a pas
voilà,
trop le luxe, en tout cas.
C'est vrai qu'il a été très critiqué après ce match. Et je pense qu'il faut savoir raison garder et c'est une petite piqûre de rappel. Attention, ce ne sont pas des surhommes. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, assez sportifs de haut niveau. Je pense qu'on a tous des jours sans dans la vie et eux aussi en ont. Donc voilà, je pense qu'il faut garder le sens de la mesure parfois dans les critiques que tout le monde peut faire et je vais nous inclure, nous journalistes aussi.
Oui, après c'est aussi notre devoir, c'est aussi notre métier de remettre en question parfois.
Bien sûr, mais de dire qu'il a fait un mauvais match, ça c'est une chose, mais ce que je peux lire sur les réseaux sociaux à longueur de journée en disant ce type est nul, machin truc, et
un léger contexte.
Vous savez quoi, je vais un peu m'écarter du sujet, mais en tout cas diverger, mais j'étais en discussion avec Paul Boudéan, d'ailleurs qu'on aura un très bel entretien des poteaux à retrouver dans les prochains jours pendant le tournoi Destination, parce qu'il reviendra de blessure d'ici 2 semaines, et lui me disait, mais c'est terrible le genre de message qu'on peut recevoir parfois de gens qui nous insultent, quoi. Voilà, je pense que
c'était une petite parenthèse. Des réseaux
Exactement.
Sociaux, même si ces derniers jours, ce sont plutôt des messages de soutien et d'amour qu'a pu recevoir Winnie Antonio. Alors justement, si on revient aux sportifs, ce week-end, La Rochelle accueille donc Lyon, Romain, avec dans l'idée de se relancer quand même après une défaite à Clermont, même si elle était sur le fil, cette défaite, malgré tout, La Rochelle n'a toujours pas encaissé de points. Comment on aborde ce match côté joueur? Est-ce que, forcément, ils sont touchés par la retraite prématurée de Winnie Antonio et par tout ce qui lui est arrivé. Comment on aborde ce match-là côté Rochelet?
En se disant que c'est un levier de motivation. Je pense que les Rochelais avaient la tête ailleurs depuis mercredi. Ils se sont mis dans le match aujourd'hui à la mise en place. C'est compliqué. Mais voilà, Aldrit disait le meilleur clin d'œil qu'on puisse faire à Winnie, c'est de gagner ce match de demain soir. C'est le match le plus important de la saison, a-t-il dit. C'est vrai que d'un point de vue comptable, pour les Rochelais qui vont enchaîner 2 réceptions de suite, alors il y aura une trêve après ce week-end, mais réception de Lyon et réception du MHR, il faut capitaliser, il faut prendre les points que les Rochelais n'arrivent pas à prendre ces dernières semaines. Alors même s'il y a eu la Coupe d'Europe, mais c'est vrai qu'à Clermont, ils auraient pu espérer mieux. Ce trou d'air de 5 minutes finalement en première mi-temps qui les prive d'une première victoire dans leur histoire au Michelin. Et voilà, ils soufflent le chaud et le froid, ils sont décimés par les blessures.
L'infirmerie de La Rochelle est vraiment impressionnante.
Je pense qu'ils ont beaucoup tiré sur la corde. Ils ont fait une pré-saison très intense, 3 semaines sans ballon pour commencer au 14 juillet.
Trop intense ?
Peut-être. Ouais, c'est ce qui se dit. Quand tu as autant de pépins musculaires, je veux dire, entre l'épidémie d'ischio et de mollets depuis le début de saison, et surtout en ce moment, surtout depuis une quinzaine de jours, c'est terrible. Ils ont monté le curseur de l'intensité après la rouste reçue à Toulouse et je pense que l'un dans l'autre, ils sont en train de le payer. Donc attention à ne pas péter encore des joueurs ce week-end, même si derrière, tu as une semaine de repos, que tu vas en récupérer des joueurs comme Bourgaride bientôt qui fera son retour. Tu ne peux pas continuer à ce rythme-là. Depuis 15 jours, ils ont pété 15 joueurs. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc il n'y a plus grand monde pour composer la feuille de match. L'équipe, elle est encore belle, hein. Mais attention, parce qu'ils sont quand même décimés à pas mal de postes, quoi.
Bah vas-y, tiens, donne-nous la compo Rochelaise pour ce match.
Alors, première ligne, Reda Ouardi, Quentin Lespiocq, Joël Sclavi. Deuxième ligne, un attelage avec Kanté Samba et Judy Cancorier qui monte d'un cran. Donc, du coup, pour se retrouver numéro 5, puisqu'il n'y a plus Skelton, il n'y a plus Boudéan, il n'y a plus personne en 5. Troisième ligne, Aldrit Capitaine entouré de Botia et Frent. La charnière, c'est la même qu'à Clermont, Couillot, Astoy. Au centre, Seteni Fabre. Le triangle arrière avec Ninia Julie, Noël et Dylan Leitz. Bon, voilà, ça reste très solide. Mais on fait avec les joueurs dispo qui enchaînent et attention à que ça pète pas. Aldrit a quand même il souffre du
coup
depuis
banc,
maintenant 3 semaines. Sur le banc, t'as Sutidze, Penvern, Huché, Angie Saramachi qui est revenu du stage U20, Boss Morin est là aussi pour compenser, pour pallier le poste de 9. West sur le banc, Séguré et Kuntelia. Bon, il y a énormément d'absents quoi.
Oui,
beaucoup de cadres qui ne sont pas là.
Évidemment. En face, donc La Rochelle reçoit Lyon, on l'a déjà dit. Lyon qui ne fait pas une saison sensationnelle, Arthur, mais qui s'est bien accroché quand même la semaine dernière au Racing, qui aurait pu faire un coup au Racing,
ouais.
Qui ne sera pas forcément si facile à négocier, même si les Rochelais s'étaient imposés au match aller en pelouse lyonnaise, sur terrain lyonnais. Malgré tout, ce n'est pas un match à prendre à la légère et ça ne va pas être forcément si simple que ça.
Bah, c'est un peu difficile de se placer avec le Loup parce que, en fait, depuis le début de la saison, il y a une vraie irrégularité dans les résultats et ça se voit au classement.
Au début de saison.
Sauf au début de saison.
Les 5 premières journées étaient top. Hein. Tu te disais, oui. Il est en train de se passer quelque chose avec Karim Ghezal.
On
et
se
puis,
dit, enfin.
Ils sont rentrés dans l'ordre.
Enfin, Ghezal a réussi à construire quelque chose. Il a eu les joueurs qu'il voulait. Il y a un effectif qui est pourtant très complémentaire. On le voit quand on regarde certains postes clés sur cette composition. Théo Millet, Youssef Omasi au centre, c'est très complémentaire. Nicolo Hallel qui fait toujours un travail énorme. Je pourrais donner d'autres exemples, mais on se dit que sur le papier, il y a tout pour réussir. Et pourtant, on voit ça au classement, ça reste très compliqué. Ils ne réussissent pas à enchaîner, sauf en
12e avec 28 points.
Et ouais, on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler la fin de saison du Loup, en fait.
Non, d'autant qu'il y a l'USAP qui pousse quand même derrière, qui va peut-être commencer à engranger des points. Julien nous le dit assez régulièrement.
Perpignan est à 14 points, mais...
Ouais. Tu ne sais pas où ils peuvent regarder, en fait.
Ouais.
Tout à fait. Tu dois à la fois regarder devant et derrière, mais t'es décroché devant, t'as un matelas derrière, c'est pas confortable quand même.
Ah non, confortable.
On attend mieux du Loup. Exactement. On attend mieux du Loup dans une densité folle comme on a, de pas voir le Loup, ça fait un peu tâche quoi.
Très clairement, surtout que quand on regarde les équipes au-dessus, on se dit qu'en fait ça ne peut que monter. On pense à La Rochelle notamment, Castres aussi, Perpignan qui va aussi venir faire peur un petit peu à ce Loup-là.
Bah,
donc voilà, c'est en plus de ça, ce qui pourrait peut-être les sauver, je pense, à cette fin de saison sans Europe, puisque 4 défaites en 4 matchs, le Loup est sorti de la Challenge Cup par la petite porte, donc il y aura...
Il reste 11 matchs à jouer à fond, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu donc, ça, quoi.
Il
ouais.
y a ça à prendre pour les Lyonnais, en tout cas. C'est le positif à retirer qu'il y a de cette fin de saison, je pense.
Est-ce que tu peux nous donner la compo lyonnaise, s'il te plaît, Arthur?
Bien sûr. En première ligne, Ray est associé à Hensley avec Guillaume Marchand au talon. En deuxième ligne, Félix Lambet et Roux. En troisième ligne, du classique, Cretin, Botta et Simons, qui fait une très très bonne saison, par contre, le troisième ligne anglais. Couillou et Méliande à la charnière, Millet et Mazi au centre, et à l'aile, Vainicolo et Ethan Dumortier et Gabin Laure en 15. Donc c'est quand même costaud, il faudra se méfier de ces Lyonnais pour La Rochelle, c'est à peu près sûr.
Il va pas falloir se tromper de joueur entre le 9 Rochelais et le 9 Lyonnais romain.
On est à
Couillou et Couillou.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce La Rochelle-Lyon qui sera donc à retrouver sur RMC, évidemment commenté par Romain Asselin, samedi 16h35 dans le cadre du multiplex. On passe à notre deuxième affiche, messieurs, si vous le voulez bien, qui est Montpellier Stade Français. On voulait plus particulièrement s'intéresser, Arthur, au Stade Français qui réalise une saison qui n'a rien à voir avec celle de l'année dernière,
c'est autre chose, ouais,
très clairement, ouais. Et qui a fait sensation la semaine dernière en allant s'imposer, Romain, c'est toi qui étais au commentaire, à Bordeaux, au Stade Chaban-Delmas, une équipe sur laquelle on peut compter cette année.
Clairement, il y a beaucoup de raisons pour ça, à commencer par le fait que dans cette période de doublon dont tu parlais, Roxane, tout à l'heure, ils ont très peu de joueurs qui sont appelés. Paul Gustard s'en est plein d'ailleurs, et
oui.
Je pense qu'on va vite l'écouter. Mais Noah Néné a été appelé et puis est redescendu de Marcoussi. Il parlait de Carbonel, de Léo Barré qui n'a pas été non plus. Seuls deux joueurs ont été appelés, mis à part Noah Néné, Giacomo Nicotera avec l'Italie et Melikidze avec la Géorgie. Donc tout le monde sera là, ou presque, au Stade Français, mis à part quelques blessés. Quand on regarde la compo, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à aller faire.
Bah vas-y, tu peux la donner la
pour
la
le
compo.
Stade français. Ça ressemble beaucoup à ceux qui sont déplacés à Bordeaux et qui sont allés gagner à Bordeaux-Bègles le week-end dernier.
C'est le même groupe, hein, quasiment.
C'est quasiment la même chose, ouais. Alo Emile, Pérez Blanc, Melikidze en première ligne. Gabriel Guépezanti en deuxième, ça aussi les deuxièmes lignes qui sont toujours là. C'est attelage qu'on a vu plusieurs fois ensemble. Alaïfonou Abriat et Johan Tanga en troisième ligne. Carbarlo Carbonel qui marche sur l'eau, on en reparlera peut-être un petit peu après. Tani Vili qui fait une saison surprenante et associé au centre à Jeremy Ward. Et aux ailes, Samuel Ezeala et Joe Marchant. Et Léo Barret du coup qui n'a pas été appelé avec le 15 de France, qui sera titulaire à l'arrière.
Donc t'as Dakou Akwa qui sort du 15, ouais, t'as Makalou qui rentre sur le banc. Ouais, c'est un peu les deux gros changements par rapport à la semaine dernière. Ouais, c'est costaud. Hein.
Ouais, c'est très costaud. Et puis à l'extérieur, en plus, le Stade français, cette saison, c'est une des meilleures équipes de ce top 14. Il y a eu la victoire à Perpignan, il y a eu des points de bonus défensifs à Bayonne, Clermont, Castres, et des défaites vraiment de pas grand-chose à la dernière minute, ou vraiment ce genre de match perdu. Et surtout, cette victoire pleine de maîtrise à Bordeaux, tu l'avais commenté, Romain. J'imagine que tu en parleras un tout petit peu mieux que moi, mais il y avait énormément de choses à dire sur cette rencontre-là aussi.
Ouais. Je pense qu'ils se sont payés, en fait. Parce que, comme tu le dis, c'est l'équipe la plus constante du championnat à l'extérieur. Bon, évidemment, on va mettre Toulouse aussi à part. Mais Paris, ils ont joué tous les matchs à l'extérieur. Et ça s'est joué à pas grand-chose, comme tu le disais. Donc, ils se sont payés. Je pense que ça leur a fait un bien fou. Ça met aussi en lumière des joueurs dont parlait Paul Gustard, qui sont un peu dans l'ombre. Pas forcément les plus médiatisés, mais qui font le taf, quoi. Je pense à des Romain Briat, à des Paul Gabriel. Bon, évidemment, lui, on le connaît, hein, puisqu'il a joué en bleu, mais il a fait un travail considérable en touche la semaine dernière. Ils ont été pris, et ça, je serais curieux de voir un peu la réaction du pack parisien, qui est quand même très fort sur les bases depuis le début de la saison, mais ils ont été pris en mêlée par le pack bordelais la semaine dernière. Je crois que 4 pénalités concédées en première mi-temps. Mais comme quoi, même quand t'as pas toute ta conquête, en touche, ils ont assuré et ils sont quand même imposés. Mais
c'est là où Montpellier va les attendre très certainement. On sait que Montpellier, c'est une des meilleures mêlées du championnat.
Ça va être génial. Il va y avoir un combat d'avant terrible demain.
Est-ce que vous voyez le pack parisien rivaliser avec celui de Montpellier?
J'ai l'impression que ce qui va faire la force du Stade français sur ce match-là, et c'est là où ça va être un duel qui va jouer sur des choses un peu différentes, c'est que le Stade français a réussi à varier son jeu, surtout depuis le mois de septembre et depuis ce début de saison. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cette caricature du Stade français qui termine deuxième il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin du championnat. Un gros pack, une grosse conquête, un 10 qui occupe, et voilà. Maintenant, le Stade français, c'est beaucoup plus que ça. Et une grosse défense aussi, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Le Stade français, c'est beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire qu'on a un vrai chef d'orchestre dans ce jeu-là qui prend souvent les bonnes décisions cette saison, Louis Carbonel, qui fait partie de les meilleurs 10 du peut-être même l'un des...
Mais est-ce le meilleur 10 du top 14 comme le disait Paul Gustard samedi dernier.
Il y a du monde quand même, pense notamment à Mathieu Jalibert, donc attention. Mais non, il y a ce chef d'orchestre-là et qui orchestre tout ça très bien, il faut l'admettre, parce qu'on a des trois quarts qui jouent, on a des avants qui jouent dans le dos, des redoublés, des offloads. C'est un autre Stade français que celui qu'on avait pu voir les années précédentes. Et il faut souligner le travail de Paul Gustard, qui, même s'il se plaint en conférence de presse, fait... très gros boulot, avec quasiment le même groupe que l'année dernière. Il n'y a pas eu beaucoup de recrues, pas beaucoup de joueurs arrivés, et ça marche très bien, surtout à l'extérieur. En fait, c'est ça qui fait leur plus grosse force cette saison, sans aucun doute. Et ça d'ailleurs, pour peut-être en rajouter une dernière couche, c'est Paul Gustard aussi qui en parlait en conférence de presse, c'est lié à son approche très anglaise, c'est-à-dire qu'en fait, chaque match à l'extérieur ou à domicile, on sait qu'en top 14, il y a plus de 75% de victoires à domicile, pour lui, il y a une approche pareil, exactement pareil, sur un match à domicile, un match à l'extérieur, il veut les 5 points à chaque fois. Il y a un vrai travail mental.
Après, j'entends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que tout le monde dit ça. Tous les staffs disent ça.
De toute façon, tu vas pas dire.
Ce qui est un peu énervant
gars,
d'ailleurs.
Déjà,
bien sûr,
mais...
bien sûr. Évidemment. Mais
tu vas pas dire, les gars, on dit pas.
Lui, au moins, il
le
matérialise.
Bon, à l'extérieur, allez, on essaie de faire ce qu'on peut, les mecs. Non, mais il disait ça, c'était intéressant parce qu'il parlait qu'il y avait une vraie prépa mentale cet été. Ils avaient fait appel à un coach mental pour bosser là-dessus. Et ça, je suis pas sûr que toutes les équipes le fassent. Alors après. Non. On ne va pas rentrer dans le concret, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est intéressant de voir les choses comme ça aussi. Et après, oui, effectivement, approche très anglaise, tout le monde veut gagner à l'extérieur et à domicile.
Évidemment. Et tu le disais en plus, Arthur, le Stade français qui pourra compter sur quasiment tous ses joueurs.
Nous, on est aussi content d'avoir tous les joueurs au club, mais on aimerait que Léo, par exemple, n'ait pas appelé alors qu'il aurait sa place, et il y en a d'autres comme ça. Il y a beaucoup de concurrence et on n'est pas une équipe très exposée, je trouve aussi. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver avec les résultats, mais il faut dire qu'on n'a pas mérité l'an passé non plus, donc on doit se racheter un peu par rapport à ça.
Au final, ça leur sert. cette année, peut-être moins exposé.
Ah bah oui, parce que du coup, avoir toutes ces forces à dispo pour chaque match, c'est sûr que... Et puis ils surprennent aussi, avec cette nouvelle tendance dans le jeu et un jeu de trois quarts qui se met en place, c'est quand même assez impressionnant et c'est là où ils surprennent, je pense aussi, pas mal d'équipes.
Après, je comprends ce que veut dire Paul Gustard, j'analyse sa sortie, c'est pas forcément qu'il chouine auprès de Fabien Galthié, c'est plus... En fait, j'ai besoin dans mon équipe d'avoir des joueurs qui vont se tanner le cuir au niveau international. Parce que forcément, même s'ils seront pas là pendant des doublons ou quoi que ce soit et que ça va peut-être nous pénaliser à court terme, à long terme, c'est quand même vachement intéressant d'avoir des mecs qui vont faire la guerre au très très haut niveau, quoi. Forcément, ça sert le club. Je pense que c'était plus de cette manière-là qu'il fallait lire la sortie de Paul Gustard, qui a surpris un peu tout le monde, parce qu'en plus, il a amené le sujet lui-même sur la table en fin de conférence de presse en disant
oui,
bon, ma seule frustration du match, en fait, c'est que j'ai qu'un mec en équipe de France.
Donc,
lui, ce qu'il veut, c'est voilà, que les mecs aillent là-bas, même si c'est que pour s'entraîner, parce que tu en tires toujours des bénéfices, quoi.
Bien sûr, notamment dans l'intensité, dans le fait de tenir sur 80 minutes à une intensité énorme. Bon, après, il y a des joueurs qui réussissent à le faire très bien en jouant qu'en championnat, mais c'est vrai que du coup, on comprend un peu plus là-dessus et. Bon, après, on va voir. Hein, à voir cet été, par exemple, pour la tournée d'été, si jamais il y a des joueurs qui sont appelés. Parce qu'on sait que c'est souvent une équipe de France un petit peu, j'allais dire au rabais, ce serait pas très respectueux de ces joueurs-là, mais une équipe de France un peu allégée qui est envoyée. Donc, à voir si des Louis Carbonel peuvent être appelés, à voir si des Gabriac peuvent être appelés aussi. Un Tani Vili, pourquoi pas. Bon, je pense qu'il en,
donc, tu les vois pas en finale. Ce qui ne veut pas dire que les finalistes ne seront pas appelés, hein, parce qu'on a vu la nouvelle convention entre la Ligue et la Fédé. Il y aura plus de quotas. Ça se fera un peu au cas par cas, en fonction aussi de la saison des uns et des autres. Mais ça ne veut pas dire que les finalistes n'iront pas. Ouais. Mais bon, à voir. Mais c'est intéressant ce que fait Paris. Moi, je suis tout à fait d'accord.
Pardon.
Je pense qu'ils peuvent jouer un grand rôle cette saison.
Est-ce que vous les voyez aller chercher Pau et leur shipper leur deuxième place?
Pourquoi pas. Pourquoi pas, je pense qu'on aura l'occasion de parler de Pau tout à l'heure, mais attention à Pau qui va aussi découvrir ce que sont les doublons, même s'ils vont récupérer des joueurs libérés, mais c'est pas la même manière de préparer des matchs. Voilà, ils sont en train de découvrir aussi ce que c'est le très haut niveau. Et,
yeah, ça, ouais.
Et alors, quand, tu vas me dire, c'est difficile de comparer avec les saisons précédentes. Oui, certes, ils sont montés d'un cran, mais tant que cette épreuve des doublons n'est pas passée, moi je reste prudent quand même. Je me dis, on sait jamais.
C'est vrai qu'on sait que c'est une période charnière dans une saison.
Ouais. Ouais, certains clubs qui adorent en profiter. Hein.
D'autant qu'on arrive à une période où en plus les clubs, là on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait tourner, notamment quand ils étaient en déplacement. Mmh. On en a longuement parlé, notamment dans ce podcast. Là, ça y est, on arrive sur une période de la saison où tout le monde va vouloir gagner tous les matchs, même à l'extérieur. Il n'y aura plus que le Stade français qui voudra le faire ça. Donc, c'est vrai que ça devient d'autant plus compliqué. Mais on reviendra sur le cas de Pau, évidemment.
Entre guillemets, que 7 points d'avance sur le 6e. Effectivement, il y a un écart, mais il n'est pas non plus énorme. Là, ça va être, pour rebondir sur ce que tu dis, ça va être le jeu des dynamiques maintenant. On sait très bien que s'il y a une équipe, et ça arrive souvent là, dans ces moments-là de la saison, et ça va arriver... au fur et à mesure qu'on arrive au printemps, c'est une équipe qui surfe sur 3-4 succès d'affilée, se retrouve tout de suite tout en haut, et à l'inverse, une équipe qui est dans le dur peut se retrouver éjectée des 6. Donc oui, moi je pense que Paris peut, enfin je veux dire, c'est pas perdu. Autant Bordeaux, ça commence à être compliqué, le top 2, mais Paris est dans le coup. Mm. Je pense que c'est les seuls qui sont dans le coup d'ailleurs pour aller chercher le top 2.
Avec Toulon.
Je sais pas.
Tu vois le Stade français un cran au-dessus de Toulon?
Ouais, vraiment. Ah ouais, vraiment. Bah, ne serait-ce que sur la constance dans les prestations domicile extérieur.
C'est sûr que là, clairement. À l'extérieur, il y a une équipe qui gagne beaucoup, qui est très dangereuse à l'extérieur et une autre qui ne réussit pas du tout à l'extérieur.
Ouais.
On en reparlera plus tard, mais Toulon, c'est vrai que c'est le gros problème de la saison de gagner à l'extérieur. Une seule victoire depuis le début de la saison.
Bon, malgré tout, en face, ça reste le MHR et c'est pas n'importe quelle équipe et c'est difficile de venir gagner en terre Montpellier-Rennes. Pourquoi je veux dire pelouse à chaque fois en terre Montpellier-Rennes. Est-ce que tu peux nous donner la compo de Montpellier, s'il te plaît, Arthur?
À Montpellier, c'est du solide, hein, comme souvent, j'ai envie de dire. La première ligne, Forletta, Ouellet, Oung Patin. L'attelage en deuxième ligne, du guide Chalureau. En troisième ligne, Alexandre Béconnier avec Vunipola et Florian Vera, qui est en troisième ligne, lui qui joue plutôt deuxième ligne habituellement. La charnière, Ali Price associé à Domingo Miotti, Lennox, Anianmou et Auguste Cadeau au centre, Tom Banks qui est à l'aile alors que c'est habituellement au poste de 15 qu'il est aligné, Stuart Hogg du coup passe à l'arrière et Maël Moustin à l'autre aile. Donc il y a de quoi faire à Montpellier et surtout que je trouve que Montpellier, au-delà d'être une équipe aussi, on la prend souvent de manière assez caricaturale, mais Paris peut-être un peu moins son jeu, mais du coup est une équipe très physique. qui à domicile est très difficile à prendre. Malgré tout, c'est assez paradoxal parce que quand on regarde le classement, ils sont à une victoire seulement de passer devant le Stade français et aussi, à l'inverse, à 4 points de Bayonne qui est 11e.
Donc, ouais. On le sait, c'est super serré.
Dans ce top 14 si resserré, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est toujours difficile de voir ça. Julien Landry.
Après, je pense que Montpellier est plus. J'imagine que vous serez d'accord avec moi. C'est plus une équipe qui pourra jouer le top 6 que plutôt regarder derrière, quand même.
Oui, sans aucun doute. Mais je trouve que c'est assez paradoxal, surtout quand on regarde sur les 10 derniers matchs. Là, ils ont gagné 8 fois, Montpellier. Donc, c'est un sérieux client. Mais je me dis, au final, quand on regarde le classement, qui est amené à jouer les derniers rôles, entre guillemets. Il y a très peu d'équipes où on dit qu'elles finiraient potentiellement 12, 13, 14 ou quelque chose comme ça. Donc, oui, Montpellier, surtout qu'en plus, je pense que la presque victoire à l'extérieur à Mayol la semaine dernière les a bien motivés. Ils étaient à deux doigts d'aller chercher quelque chose si David Ribans n'avait pas chippé une touche dans les dernières secondes du match. D'ailleurs, Johan Codulo en parlait vachement cette semaine, le côté frustration, surtout que le match a été reporté, donc ça fait un jour de récupération en moins pour préparer ce match-là. Donc Montpellier va être fâché, je pense.
Ou un Montpellier fâché, j'aimerais pas être en face quand tu te prends les 8 de devant, là. C'est sûr.
Malgré l'absence de Nouchi, qui risque quand même de faire un petit peu de mal à ce paquet d'avant.
Ouais, Lenny Nouchi, on le sait, hein,
capitaine.
C'est un capitaine et puis un des hommes de base de ce Montpellier-là, justement. Il réussit à...
Qui est retenu avec le 15 de France. Hein,
qui oui, bien sûr.
Il n'est pas là.
Qui sera sans doute sur le banc, si on croit ce qui a été raconté cette semaine chez nous.
si on croit Pierre Thévenet, oui, Wilfried Templier.
Et on les croit.
Je doute de Pierre Thévenet.
Ils font toujours du très bon boulot, bien sûr que non. Qui ont l'œil
avisé.
Qui ont l'œil avisé quand ils sont à Marcoussis. Non, Lenny Nouchi, je pense... très sincèrement, tu me diras ce que t'en penses Romain et toi Roxane aussi, mais que son absence va faire beaucoup de mal, plus lui que d'autres joueurs, parce que cette année, au-delà d'être le capitaine, il est titulaire 12 fois en 15 journées, et je suis allé un peu regarder les stats, parce que je trouve que c'est un joueur qui, offensivement, on le voit beaucoup, on a l'impression peut-être un petit peu moins le voir actif défensivement. C'est le seul troisième ligne qui est présent dans les 20 meilleurs franchisseurs du championnat. Je pense que ça confirme un peu cette impression visuelle qu'on a ce joueur qui casse des plaquages, qui fait des offloads, qui franchit, qui est toujours dans l'avancée, effectivement, et qui porte énormément le ballon aussi. C'est le 9e joueur qui porte le plus le ballon en top 14. Donc, il est au centre du projet montpelliérain et du jeu montpelliérain. Et son absence va, je pense, faire beaucoup de mal au MHR.
T'es d'accord avec ça, Romain ?
Je sais pas. Tu sais, j'ai...
pas sûr.
Dubitatif.
Les non, stats, mais... ça dit pas tout, les stats.
Non, c'est pas ça. C'est que... Une équipe qui joue les 6 doit composer.
Oui, tu penses que son absence sera palliée sans trop de difficultés.
J'ai toujours, tu sais, je me dis toujours, bon bah les absents ont toujours tort, mais voilà, il est absent. Tu vois, tu dois faire autrement.
Ah oui, ça c'est sûr.
Et quand tu regardes sur la compo, tu passes Florian Vera qui est deuxième ligne et pour moi peut-être pas le joueur le plus adapté pour jouer en troisième ligne, qui devient 6 du coup, donc le poste de Linouchi. Tu perds quand même pas mal au change, même s'il n'y a qu'un joueur sur le terrain, évidemment, même 23 en comptant les remplaçants. Je trouve qu'il y a quand même une
mais après, tu ne peux pas compter sur Nouchi comme d'autres cadres tout au long de la saison. Enfin, je veux dire, il faut aussi que tu trouves des plans B. Et... Ça ne doit pas être un problème. Effectivement, ce ne sera peut-être pas le même rendement. Ils vont peut-être s'adapter aussi au niveau de la stratégie, mais il ne faut pas que ça devienne un problème. Il ne faut pas qu'il y ait une Nouchi dépendance. Parce qu'ils n'ont pas non plus 50 000 internationaux, tu vois. Ils en ont un. Il ne faut pas que ce soit un truc. Bon, je pense qu'ils peuvent le compenser. Tu vois, je suis pas inquiet.
T'es pas inquiet. Très bien, bah, tant mieux. Tant mieux pour les supporters montpelliérains en tout cas qui nous écoutent.
Et retrouve le sourire en t'écoutant.
ce match, donc, ce sera l'ouverture de cette 16e journée de top 14 MHR Stade français à 14h30 ce samedi avec notre Julien Landry national au commentaire.
Lui, il va être triste. Hein. Oui. Il va être triste de ne pas voir Nouchi, lui, par contre.
Bah oui, évidemment.
Il va commenter tout le
monde. Il sera heureux de le voir au 15 de France la semaine prochaine. Évidemment. Ouais. Jeudi prochain, évidemment, France-Irlande, on répète. Match d'ouverture du Destination. Ouais,
répète-le bien, parce que jeudi,
répète,
c'est vrai que c'est...
Ouais, jeudi soir, c'est vrai que c'est exceptionnel. on rappelle pourquoi. C'est parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, le vendredi soir. C'est pour ça que ce match a été décalé au jeudi. On passe aux deuxièmes affiches que vous avez choisies, messieurs. Romain, quel match veux-tu nous parler ?
Il me semblait que j'avais pris Pau Toulon. Hein. C'est pas ça.
C'était ça.
Alors, si
c'était
j'en suis
ça,
ce que tu nous as dit dans la préparation de ce podcast, oui, c'était ça.
Bon, évidemment, on n'a pas les compos. C'est le match du dimanche soir. Moi, je suis content de de voir la section enchaîner les primes. Voilà, ça récompense leur super travail. C'est un club qui a été resté dans l'ombre des Cadors pendant des saisons et des saisons. Et là, et en plus, je trouve qu'ils amènent un effet un peu rafraîchissant aussi sur les matchs en prime. Même s'ils ont pris, ils ont fini par prendre une volée à Toulouse la semaine dernière, comme tout le monde. Attention, comme tout le monde. Bah, ils n'ont pas démérité. Ouais, c'est bien de les voir encore à l'affiche. C'est une équipe qui progresse, qui a un super effectif. Maintenant, j'en parlais un petit peu tout à l'heure en préambule. Je suis curieux de voir comment ils vont gérer cette nouvelle notoriété qui forcément fait que tu vas devoir composer sans pas mal d'internationaux.
Notamment ta ligne arrière, qui est déplumée.
Exactement.
Et ils récupèrent Grand Didier et Arfeuil quand même qui sont redescendus. Oui.
Ouais, mais je pense qu'ils vont avoir pas
on
mal de joueurs libérés.
Hein.
Après, il en reste à Paris.
Tout au long du tournoi, ils vont avoir des joueurs libérés le mercredi. Mais c'est pas pareil.
Oui.
C'est pas pareil, tu vois. Bon, il faut aussi gérer ces allers-retours, même si maintenant la Fédé et la Ligue ont dit qu'il allait falloir aussi faire attention à ce que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent les allers-retours, parce que forcément, ça, je pense que ça peut jouer sur le moral des joueurs. Mais voilà, la Pau est devant un obstacle pour moi qui.
Ça peut être révélateur.
Un obstacle
ce match.
De maturité, ouais, je pense. Mais,
surtout quand on accueille Toulon.
Surtout quand on accueille Toulon, qui, je le disais tout à l'heure, est en grosse galère à l'extérieur et qui, chaque match, il va avoir le couteau entre les dents pour se dire que, bah oui, nous aussi, on peut gagner à l'extérieur, ce qui fait de nous un prétendant au titre. Petit problème, par contre, c'est que Pau est quand même toujours invaincu à domicile depuis le début de la saison. Ils font partie de ces clubs-là. Donc, il y a un gros défi. Ce qui va être très cool à suivre, je pense, pour ce match du dimanche soir, c'est que là où Pierre Mignoni a tendance à des fois faire tourner en déplacement contre les grosses équipes, on n'est pas le seul à faire ça, évidemment, mais je pense qu'il va envoyer la grosse équipe pour ce match-là.
C'est le moment ou jamais, quand même.
Et là, c'est le moment ou jamais de montrer, de prouver qu'on devrait pouvoir retrouver Toulon très loin cette saison.
La motivation est toute trouvée pour les Toulonnais.
T'as un doute, Romain?
Bah, j'ai un doute. Alors, je fais pas du tout référence au déplacement à La Rochelle en début d'année, hein, parce que celui-là, je veux dire, il faut le sortir du contexte. Il y avait, je sais plus combien de minots sur la feuille de match. Enfin, je veux dire,
oui.
C'était bon, 66-0. Bon, celui-là, il est pas dans l'analyse. Mais ça fait plusieurs déplacements de suite à vide. Et non, moi, ça m'inquiète quand je vois une équipe qui a du mal à tourner à l'extérieur et avoir des résultats et prendre des points. Forcément, à un moment, tu le payes dans la saison si tu n'arrives pas à faire le jump. Et après, quant à la composition, est-ce qu'il va aligner ses internationaux? Est-ce que Breck sera là? Est-ce que Garbici sera là? Il n'y aura pas Serein, évidemment.
Ni Olivon.
Ni Olivon. Il y a le retour de Villiers quand même. Ah, je sais pas. Moi, je pense que. Je vais tirer un peu le fil. Je pense que Toulon va devoir cravacher jusqu'au bout pour avoir sa place dans les 6.
Ah
ouais. Elle n'est pas assurée.
Alors ouais, Toulon, quatrième avec 43 points actuellement.
Pour moi, ils sont,
égalité
ils sont
de points
moins,
avec le Stade français qui est troisième.
Ils montrent moins de garanties que la saison dernière. Ou vraiment la saison dernière, rappelez-vous, à cette période
bien
de
sûr,
l'année,
ouais.
Il y avait trois clubs qui se détachaient, qui étaient quasiment tous à égalité au classement. C'était Toulouse, Bordeaux et Toulon. Mais Toulon, moi, je ne les vois pas à ce niveau cette saison. Après, bon, voilà, hein, on va arriver au printemps. C'est toujours une histoire de dynamique. De toute façon. Mais non, mais c'est vrai.
On aurait un coach en conférence de presse. Pérez Blanc a dit ça aussi en conférence de presse.
Mais ouais, mais tu vois, au début, je me disais, mec, ils nous prennent pour des. Mais en fait, non, ça se passe toujours comme ça. T'as des équipes qui peuvent cravacher pendant toute la saison, enfin pendant 8 mois, et puis les 2 derniers mois, hop là, ils enclenchent la dynamique. Et moi, j'ai connu ça avec La Rochelle. Bon, c'est plus trop le cas maintenant, mais
non, plus trop, non.
Les saisons dernières, où voilà, à un moment, quand une équipe a décidé et se réveille. Est-ce que Toulon va faire ça? Je sais pas. J'ai mis des doutes. Mais j'ai mis des doutes aussi sur Pau en même temps.
Ouais.
J'ai mis des doutes sur Bordeaux aussi pour être dans les 6 de manière confortable. Attention. Clermont, je les vois pas dedans. Enfin, en fait, je sais pas qui sera dedans.
Oui, non,
à part Toulouse.
Medium, tu vois pas qui. Ouais, et Pau quand même. Pau, il sera.
Ben,
à quelle place
je leur souhaite, parce que ça viendra récompenser une super saison et un super travail. Mais attention, il reste 11 journées. Et à 11 journées, il peut se passer énormément de choses.
Toulouse, donc, parlons-en, Roxane.
Bien sûr.
Transition.
C'est le match que tu as choisi, j'imagine, du coup.
Ouais, en toute objectivité, bien sûr. Ce Toulouse-Bayonne, du week-end. Je l'ai choisi parce qu'il y a deux infos importantes là-dedans. Déjà, on arrive en période de doublon. Le Stade Toulousain, évidemment, les doublons. J'ai envie de dire que c'est à double tranchant.
C'est quoi, ça tranchant. Existe ce mot-là là-bas?
Non, mais,
voilà, factuellement, il y a.
Regarde-le, le Toulousain qui essaye de nous faire.
Ils sont appelés moi, Toulousain. Faux.
Essaye de nous faire croire qu'il y a le moindre suspense.
Non. Je dis pas que le Stade Toulousain va être particulièrement affaibli. Je dis surtout que ça va être intéressant de voir. Déjà, les nouvelles têtes, j'ai regardé la compo et forcé de constater que sur la compo, il n'y a pas tant de nouvelles têtes que ça,
non.
Déjà, pour commencer, parce qu'il reste quand même beaucoup de monde et c'est assez impressionnant de voir encore une fois cette profondeur d'effectif-là.
Mais il n'y a pas de nouvelles têtes du tout, même.
Il n'y a pas de nouvelles têtes du tout,
là,
d'ailleurs,
mis
à part
tous, hein.
Thomas Rapetti, de Pilier Argentin, qui n'a pas beaucoup joué cette saison avec le Stade Toulousain, j'ai pas non plus.
Ah oui, je ne l'avais pas vu. Pardon.
Exactement.
Numéro 23.
Non, s'il y a
que ça, pas allé jusqu'au 23.
S'il y a que ça, on t'en voudra pas. T'inquiète pas.
C'est pas bien, le chef ne va pas être content si tu n'as pas jusqu'au 23. Attention.
Non, mais c'est assez impressionnant parce que. Au-delà de tous les internationaux qui ont été appelés, je peux les rappeler vite fait, Netti, Marchand, Movaca, Colombe, Aldeguerri, Meafou, Kroos, Jelon, Dupont, Gour, Gramos. Il y a Nelson Épé qui est avec Français à Singapour. Thibaut Flamand s'est blessé à la cheville. Je ne vais pas faire la liste de tous les blessés, mais il y a, si j'ai bien compté, 21 absents. Il y en avait 25 au début de la semaine, donc ils en ont récupéré quelques-uns. Commencé par Barassi qui est peut-être apte, sans doute apte... qui
est sur le banc. Promotion.
Il est sur la feuille, ouais.
Qui est sur la feuille, tout à fait. Merci de compléter ça. Donc voilà, il y a ce truc-là. Ces doublons vont être l'occasion, pas forcément sur ce match-là, parce qu'ils sont pas sur la compo, il me semble. Mais il y a des joueurs qui ont été rappelés de Pro D2. Souvent, ce que fait le Stade Toulousain, c'est qu'ils prêtent ses joueurs, notamment, tout à fait, Valentin Delpy, qu'on a vu pas mal avec Perpignan l'année dernière et un petit peu avec Toulouse aussi. Ça va être l'occasion de voir ces joueurs-là. Et pour finir, je trouve que ça va être aussi une opportunité pour certains. D'assumer un nouveau statut. Je pense notamment à Léo Banos qui fait une excellente saison, sa meilleure avec le Stade Toulousain sans aucun doute. Pour vous raconter une petite anecdote, quand je préparais ce podcast tout à l'heure, j'étais sur le site All Rugby que les connaisseurs de rugby connaissent bien. Il y avait un bug et sur la photo de Léo Banos, il y avait François Kroos. Et c'est très drôle parce que je trouve que
c'est
Léo Banos. C'est assez fou parce que ça nous fait penser à la nouvelle dimension que prend Léo Banos cette année. Excellent en touche, capable de jouer très intelligemment, qui a des mains. C'est pas le joueur le plus rapide, le plus puissant, mais il sait tout très bien faire. Et quand on fait appel à lui, il répond présent à chaque fois. Et il est en train de franchir un cap cette saison, donc qui a été très utilisé d'ailleurs, 16 matchs sur 18 possibles. C'est aussi l'occasion, on peut avoir pas mal d'infos en fait, pour la suite pour le Stade Toulousain. Donc c'est des infos qui nous serviront dans 2-3 ans pour se projeter un peu sur l'effectif toulousain. Je trouve que ce match-là est intéressant pour ça, voilà, notamment. Après, on peut parler de Bayonne aussi, c'est encore un autre problème, mais...
C'est un autre problème, ouais. C'est un sacré problème.
C'est compliqué.
C'est un gros problème.
C'est épineux. Hein.
Deux gros problèmes.
C'est très compliqué.
Parce que c'est pas le meilleur moment pour rebondir, disons.
Bon, il joue toujours autant pendant les doublons, hein. Même si le match aller n'était pas pendant les doublons, à chaque fois il joue Toulouse pendant les doublons ces dernières saisons. Ouais, je crois que c'était les matchs qui étaient à Jean Daugé. Mais qu'importe, mais même là, s'ils affrontent une équipe de Toulouse remaniée.
Bayonne qui a mis fin à son invincibilité à domicile la semaine dernière en s'inclinant face à Castres.
Après un an et demi sans perdre à Jean Daugé, c'est. Je pense que ça leur a mis un sacré coup.
Mais on la sentait venir. Eux la sentaient venir.
Oui, bien sûr.
Tu le vois dans les déclarations d'après match, des dernières prestations à domicile, ils sentaient le coup venir à un moment. Ça allait tomber. Et là, Bayonne, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. Pensez pour Greg Patate qui doit se dire, mais dans quelle galère là, je suis là. C'est... Il est toujours là, manager, mais il est de plus en plus contesté, non pas par le peuple bayonnais, qui ne jure que par lui. Enfin, il a une cote de popularité qui est quand même énorme et qui me fait penser à celle qu'il avait à La Rochelle, alors qu'à La Rochelle, il était simple, entre guillemets, adjoint, même si à un moment, il a été sur le devant de la scène avec Garbajosa, mais un homme très apprécié. Et c'est ce qui se passe aussi, alors que là, il est en première ligne à Bayonne. Mais je pense qu'avec les dirigeants, ça c'est plus possible. Quoi. Lui, on fait tellement de... Je me demande jusqu'à quand ça peut durer cette situation. Franchement, je vois pas Bayonne faire un coup à Toulouse. Ou alors là,
ça me semble compliqué.
C'est
aussi
le coup du début d'année.
Est-ce
qu'ils
prennent
50 de moyenne à l'extérieur? Franchement, bon courage, hein, les Bayonnais. Hein.
Et est-ce que ce match peut coûter la tête de Grégory Patate? Il y a un monde où je pense qu'il peut partir après ce match-là. Enfin, partir, pas de son propre chef, mais ça peut lui coûter sa place, je pense. S'il y a une volée, s'il y a une grosse victoire de Toulouse, attention.
J'ai l'impression qu'il est soutenu par ses joueurs. Hein. Et Arthur Ituriel a encore dit la semaine dernière après le match, je pense qu'il a le soutien de son groupe. Personne ne l'a lâché. Et après, contractuellement, donc il a prolongé récemment jusqu'en si je dis pas de bêtises, c'est quoi, 2027? J'ai un doute, mais
2027 ou 2028?
Virer un entraîneur que tu viens de prolonger, est-ce que l'aviron, alors je connais pas assez le dossier, hein,
jusqu'en 2028,
je pose une question, jusqu'en 2028, est-ce que virer un entraîneur que tu viens de prolonger, est-ce que l'aviron a les reins financiers pour le faire? Voilà, j'ai pas la réponse, j'en sais rien, mais c'est une question qui se pose comme elle peut se poser dans plein de clubs dans une situation compliquée après avoir prolongé son manager. Mais là, c'est quand même... enfin, comment veux-tu travailler dans ces conditions? Bah, pour connaître un peu Grégory Patate, qui est quand même sain d'esprit, je me dis, je sais pas comment il fait. Vraiment. Hein.
Ah ben, c'est sûr qu'il n'est pas forcément aidé par le comportement de son président, qui après un match, alors je ne sais plus quel match c'était exactement, mais qui dit que voilà, à la fin d'une interview, le confrère de Canal qui dit que Travers va se rapprocher du terrain, etc. Déjà le fait de recruter Laurent Travers, l'installer à un poste, une espèce de direction sportive à double tête, on sait jamais trop où ça allait. Là, de le rapprocher du terrain parce que les résultats ne sont pas là, évidemment, il y a ce fait-là de ne pas laisser travailler Grégory Patate. C'est l'impression, en tout cas, qu'on a quand on voit ça de l'extérieur. Et malheureusement, au final, sur les résultats, ça se ressent cette saison. On parlait de ces équipes-là qui sont mal à l'aise à l'extérieur, enfin, qui sont pas du tout à l'aise à l'extérieur, pardon. Bayonne, c'est la troisième pire équipe à l'extérieur. Et alors qu'à domicile, c'est l'inverse. C'est une équipe qui est excellente à domicile à Jean Daugé.
C'est ce qui les maintient à flot, d'ailleurs.
C'est ce qui les maintient à flot, et
Heureusement qu'ils
encore,
sont
ouais.
sauvés comptablement. Heureusement. T'imagines si derrière, c'était pas la traîne? Parce que bon, on va pas se le cacher, Perpi et Montauban se jouent les deux dernières places, mais imagine s'il y avait une densité comme on a connu, bah ne serait-ce que la saison dernière, ou même à 2 journées de la fin, il y avait encore 4-5 clubs qui étaient menacés de relégation. Imagine s'ils étaient tombés sur une année comme ça. Voilà,
Bonjour l'ambiance.
ce serait pas possible. Là, il y aura peut-être une révolution, c'est sûr. Là, il se passerait des choses. Ils ont quand même ce confort-là d'être sauvés quelque part. Donc faut pas mettre le feu quoi, je veux dire. Je vois pas la situation, je vois pas Greg Patate sur un siège éjectable tout de suite, je vois pas l'intérêt en fait.
Et pour ne rien arranger, en plus, tu as des absences quand même assez importantes
Bah
sur ce
vas-y pour
match-là.
les compos, Arthur, on les a pas eus, donc je t'écoute.
Pour
On
parler des joueurs
t'écoute.
qui jouent, Kayes, Facundo Bosch et Luc Tanguy en première ligne. Johnson, Paolo en deuxième ligne, c'est solide. Il y a de quoi faire aussi. Rodrigo Bruni, Baptiste Egui et Rob Leota en troisième ligne. Retour de Rob Leota sur ce match-là. La charnière, Germain Segond, du classique. Martok Makala au centre. Erbin Artegaray et Spring aux ailes. Tom Spring qui est de retour de blessure aussi. Et Johan Orabe derrière. Je pense que, alors, cette compo-là, on va dire que c'est peut-être pas la plus impressionnante, mais c'est expliqué aussi par les absences. Esteban Capila est toujours blessé. Arthur Ituria, Manu Tulagi. Emerick Cetieno qui avait énormément enchaîné depuis le début de la saison. Matteo Carreras qui fait quand même beaucoup de bien quand il joue à l'aile
Oh
par son
oui,
activité.
c'est sûr.
Et encore, c'est un euphémisme. Et Fischer et Tatafu qui sont revenus tous les deux bah, blessés de Marcoussi. Fischer a un pied, il me semble, et Tatafu au dos. Donc, c'est quand même des joueurs qui ont tous leur place dans le 15 de départ et qui font aussi des différences à leurs échelles respectives. Ça fait mal pour un déplacement à Toulouse. Des joueurs comme ça qui sont des leaders autant par le combat que vocaux. Ça va être d'autant plus compliqué avec ces absences-là.
Est-ce que tu as donné la compo toulousaine? Il ne me semble pas.
Je n'ai pas donné la compo toulousaine. Je n'ai pas donné la compo
Si j'ai
toulousaine.
bien suivi ce podcast.
Tu as bien suivi ce podcast. Au centre des choses et
C'est
ça se
bon,
voit.
c'est validé.
Du coup, au talon, pas de Julien Marchand ni de Paato Movaka. Du coup, c'est Lacombe qui joue, entouré par Aïnou et Paul Malaise. En deuxième ligne, Brennan qui est revenu de sa semaine de ses quelques jours avec l'équipe de France. En deuxième ligne, avec Clément Verger. En troisième ligne, Jack Willis est toujours là, Léo Banos, du coup on en parlait, avec Alexandre Roumat en numéro 8. La charnière, c'est Graou et Delpy, du coup, qui est revenu de Colomiers. Chocobar Escoste au centre, ça aussi du classique. À l'aile, Mathis Lebel et Teddy Thomas. Et Blair Kinghorn, qui a été libéré par l'Écosse ce week-end. Voilà, la
Très
compo de
bien.
Toulouse.
Match à suivre donc à 21h ce samedi, commenté par Wilfried Templier avant de partir rejoindre son 15 de France adoré. Il va faire une dernière pige avec le Stade Toulousain.
Un route d'honneur.
Mais si on va passer rapidement à vos joueurs que vous avez décidé de suivre ce week-end, Arthur, vu que tu as la main, je te la laisse.
Eh bien, vu qu'on n'a pas beaucoup parlé de Castres pour l'instant dans ce podcast, je voulais rendre un petit hommage au CO qui est sur deux très grosses victoires à l'extérieur. On en parlait peut-être un petit peu tout à l'heure. Au Munster, déjà. Et puis à Bayonne, justement, à Jean Daugé, ce qui est un exploit, on peut le dire. Le joueur que j'ai choisi, c'est Baptiste Kopp, troisième ligne de Castres. Alors, pour avoir bien regardé et commenté du coup aussi le Munster Castres en Coupe d'Europe, exploit de Castres qui s'impose au Munster à Thomond Park. Ce joueur-là a été l'un des grands artisans de cette victoire-là, même s'il n'a pas joué 80 minutes, j'ai vérifié tout à l'heure. Il a été impressionnant dans son activité et c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est un joueur qui a que 23 ans, qui va avoir 24 en février. Une énorme activité au plaquage. D'ailleurs, contre Bayonne, il en a réalisé 17, meilleur plaqueur de la rencontre et de loin. C'est un joueur qui plaque beaucoup, du coup. C'est un joueur qui sait aussi porter le ballon, qui est très intelligent dans sa manière de jouer, qui voit les espaces, qui voit où sont placés ses coéquipiers un temps en avance. Et on est content de le voir jouer parce que l'année dernière, il prend une grosse commotion au Loup. Il a été absent plusieurs mois, il me semble.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'était assez impressionnant, les images, d'ailleurs. J'allais dire, je vous invite à les regarder, mais vaut mieux
pas. Pas trop, du coup.
Pas tellement. donc, il commence enfin à s'installer dans cette troisième ligne-là. Et pourtant, il y a de la concurrence à Castres. Donc, c'est un joueur qui est encore assez jeune. Facilement repérable à son casque bleu sur le terrain. Donc voilà, je trouve que c'est un joueur qui a une activité énorme, qui sait gratter des ballons aussi, qui porte bien le ballon, très complet, et qui vraiment sur 80 minutes est capable de faire de répéter un nombre de tâches assez importantes. Je pense qu'on va en entendre un peu plus parler au cours de ces prochains matchs-là. Ça fait 4 titularisations qu'il enchaîne avec celle-ci. Donc, il fait une magnifique percée aussi d'ailleurs contre le Munster, ça m'est revenu à l'instant à l'esprit. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce joueur-là. Il est un peu dans cette tradition des troisième lignes castrées, très rugueux, très dur au mal, même si on le sent un peu plus intelligent et doué avec ses mains que certains autres troisième lignes castrées. Je pense notamment à Baptiste Delaporte, à Mathieu Babillot, qui sont aussi des troisième lignes exceptionnels dans leur point fort, des joueurs qui plaquent beaucoup, aussi une énorme activité. Mais voilà, je le trouve un peu plus complet et encore jeune, donc encore perfectible. On en redemande plus. Quoi.
Avoir c'est une cœur. Déclaration d'amour.
Ouais, voilà. Je t'aime.
Tu m'as mis les larmes. Je t'aime. Tu m'as mis les frissons, les poils.
Castres qui reçoit Clermont dans le multiplex à 16h35 ce samedi. Commenté par Wilfried Templier. Il est partout. Il est partout. C'est incroyable.
Se dédouble presque.
La force du chef. Romain, quel joueur toi as-tu choisi de suivre ce week-end?
Tiens, bah du coup, je suis allé sur le Montauban Bordeaux dont on n'a pas parlé. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de Bordeaux, mais je vais mettre en avant un joueur de Montauban, ce qui est rare quand même cette saison de sortir des individualités, mais lui le mérite peut-être plus que d'autres encore. C'est Thomas Buet, le pilier gauche de Montauban, jeune pilier qui franchement m'impressionne et qui est en train de monter en puissance. Je regardais ses stats tout à l'heure parce que c'est pas qu'une impression en fait, hein. Ça se reflète aussi au niveau des stats. C'est le pilier qui a le plus battu de défenseurs de toute la division. En seulement 12 matchs de top 14, il a plus de 20 défenseurs battus. Il a une mobilité qui est impressionnante. C'est le troisième porteur de balle de son équipe. Il a pas des dimensions de fou, hein. Je crois que c'est 115 kilos Thomas Buet, mais voilà, il est dans ce registre de pilier gauche. Pas trop lourd, très mobile, très important dans le jeu. Ouais, moi ça me plaît. Il va signer 2 ans. Il a signé pour 2 ans au Stade Français, qui rejoindra à l'intersaison.
Très belle recrue.
Et voilà, c'est mérité pour ce gamin-là qui est arrivé à Montauban en 2017, qui a fait ses classes et qui est peut-être la révélation de cette équipe depuis le printemps dernier. Et voilà, j'ai pas souvenir d'avoir vu Thomas Buet passer. Au travers cette saison, alors qu'il y a plein de joueurs dans cette équipe qui sont bien plus connus. Je pense à Devissi par exemple, qu'on a vu alterner le chaud et le froid, des Bosviel aussi. Voilà, ce petit Thomas Buet, moi je pense qu'il a un bel avenir devant lui et il me tarde de le voir sur des matchs couperets plus importants avec le Stade Français l'année prochaine.
Il n'a que 23 ans, tout jeune,
oui,
encore
en plus,
pour un pilier.
Ouais.
Très bien, et eh bien ce sera donc Montauban face à l'Union Bordeaux-Bègles, commenté cette fois non pas par Wilfried Templier qui ne peut pas être partout malgré tout, mais par Clément Cressio, c'est dans le multiplex également à 16h35 ce samedi.
Il pourrait, hein, c'est pas loin de la maison. Hein.
C'est vrai que c'est pas loin de la maison,
un effort,
mais il a fait ses choix.
Montauban, Castres, Toulouse, il fait pas d'effort.
Non, il fait pas d'effort, on lui dira. Bah d'ailleurs, il nous écoute sûrement, donc il doit l'entendre. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce podcast. Merci à tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et rendez-vous lundi, à quelques jours du premier match des Bleus contre l'Irlande. Allez, salut à tous, bon week-end.
Ciao.